Bon, merci beaucoup à tous, spécialement les musiciens. Je connais certaines églises, j'en connais une, deux, j'en connais-tu trois, qui ont zéro musicien. C'est pas évident, hein? Il y en a qui pèsent un piton pour un enregistrement du piano comme pré-enregistré et tout ça. Hey, ici on a une vraie pianiste avec un vrai piano, des vrais guitareux. Même une violoncelliste. Puis là, aujourd'hui, on n'a pas notre guitaroniste du guitaron. C'est un guitaroniste. On pourrait dire bassiste parce que c'est une guitare basse, dans le fond. Amen, on s'en va tout le monde. Je ne sais pas si vous saviez, mais c'est Philippiens 2 qui, aujourd'hui, est l'objet de notre attention pour le message. Philippiens 2, on l'a lu ensemble avant la symphonie de prière, et comme je le disais, on va quand même, je disais, revisiter pas mal l'ensemble du chapitre, sans regarder verset par verset. On va relire chaque section. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire en commençant. On va lire les versets 1 à 13 pour s'introduire. Puis je veux mettre l'accent sur l'élément, je vous ai dit tantôt, avant la lecture pour le temps de prière, que je voulais souligner quelque chose. Bien, je vais le souligner à la fin de notre lecture, puis... Vous allez voir c'est quoi. « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, il apparut comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant, jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. En fait, avant de vous dire quoi que ce soit, j'aimerais juste qu'on s'arrête auprès de Dieu. Seigneur, on veut juste te demander que tu puisses prendre ces instants pour tes plans bienveillants. Merci Seigneur, on n'a pas à se casser la tête avec nos plans. En fait, nos plans sont un obstacle. On veut Seigneur ton plan parfait, ton plan bienfaisant et souverain. Et c'est pour ça qu'on considère ta parole Seigneur, parce que c'est elle qui nous éclaire sur notre sentier, c'est la lampe. Et Seigneur, merci qu'on peut marcher pas à pas Seigneur en dépendant de toi. Donc que ce moment qu'on prend dans ta parole puisse produire du fruit dans chacune de nos vies. Alors, Seigneur, qu'on grandit dans cette dépendance à toi. Et Seigneur, on veut emporter du fruit à ta gloire pour que tu sois manifesté, Seigneur, dans nos vies et dans cette Église. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Et donc, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais Philippiens 2 qu'on vient de lire, avant, on l'a lu au complet tantôt, on vient d'en lire grosso modo la moitié, est rempli de contrastes. Les versets 12 et 13, ça dit « Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. » Puis le verset tout après, ça dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. » J'ai dit contraste et c'est le titre du message, les contrastes de notre position en Jésus. Mais j'aurais pu employer aussi le terme paradoxe. C'est quoi un paradoxe? Là, c'est pas la définition du dictionnaire, là, mot à mot, là, mais un paradoxe, c'est simplement c'est deux vérités qui s'opposent et qui semblent se contredire, qui semblent irréconciliables, mais qui, dans la vie chrétienne, on accepte par la foi. Et il y en a tellement. Là, on parle de celle par rapport à la sanctification. Hein? Mettez en œuvre, C'est Dieu qui produit. L'élection de Dieu, la souveraineté, le libre arbitre de l'homme, les Écritures inspirées de Dieu, mais écrites par des hommes. Et bon, on pourrait y aller comme ça, les grandes vérités de la vie chrétienne, c'est pas nouveau, vous le savez, on a déjà parlé de ça. Il y a beaucoup de paradoxes. Et moi, j'aime ça rappeler quand je partage la parole avec des personnes. Pour moi, ça me sécurise. Ça, il y a des gens que ça rend tout insécure. Puis, ben là, ben moi, c'est le contraire. Ça montre, c'est pas d'origine divine. Si on pouvait tout expliquer, si je peux expliquer Dieu, la Trinité, si je peux expliquer que Christ est 100% Dieu puis 100% homme, si je peux tout expliquer, c'est pas divin, c'est humain. Mais le fait que, justement, ça dépasse le raisonnement, la compréhension humaine, ça montre que notre foi n'est pas basée sur la parole des hommes, mais bien sur celle de Dieu. Et donc, ici, une série de contrastes. Là, je vous les donne là, en rafale, mais un contraste entre l'orgueil et l'humilité dans les premiers versets, n'est-ce pas? Ensuite, et ça, bon, on peut dire que c'est la différence entre grandir dans la vie chrétienne ou régresser, OK? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, fait grâce aux hommes. Ensuite, on voit vraiment avec l'exemple de Christ, le contraste entre la gloire et l'abaissement. Hein, comment Christ était dans la gloire éternelle et il s'est abaissé au plus bas qu'il peut y avoir. Et ça, je dirais, c'est la différence entre la perdition et le salut, parce que Christ, en acceptant comme ça d'être abaissé, c'est comme ça qu'il nous a réconciliés avec Dieu. Et aussi, on voit comment Christ, étant abaissé, il est élevé ensuite au plus haut. Et c'est la même chose pour le salut. Hein? Quand on s'abaisse, qu'on s'humilie, reconnaissant qu'on ne peut pas sauver nous-mêmes, on reçoit le salut éternel et la gloire éternelle. Dans les versets 9 à 11, on voit l'humiliation versus l'exaltation, toujours avec Christ. Hein? Donc, dans le même sens, c'est ça, Christ qui est allé au plus bas avec la mort, non seulement la mort, mais la mort de la croix, c'est-à-dire une mort d'humiliation, être exposé à l'ignominie comme un criminel, comme quelqu'un qui est humilié publiquement. Puis après ça, ça nous dit que c'est ça, il y a le nom qui est au-dessus de tout nom et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Et ça, je dirais, on va pas mal s'arrêter là-dessus aujourd'hui avec la question de notre position en Jésus, donc plus à venir à ce niveau-là. Et ça continue dans le chapitre, au verset 12 à 18, on voit la grâce versus l'obéissance de la foi. Et ça, je dirais, c'est la différence entre une vie de liberté et une vie d'esclavage. Et ça aussi, ça va être beaucoup ce qu'on va voir ensemble, pour avoir une juste compréhension de c'est quoi notre position et c'est quoi le fruit de cette position. La suite du chapitre, dans les versets 19 à 24, là on est plus dans des exemples dans la vie de Paul avec Timothée. On voit où est-ce que Paul, il dit que personne ne se soucie de la situation des Philippiens, ni de la sienne d'ailleurs. Donc, on a un contraste entre l'égocentrisme et le christocentrisme. Et je dirais que c'est la différence entre la destruction mutuelle et l'édification mutuelle. Si on est égocentrique, on ne va pas construire grand-chose. On va construire peut-être notre petit royaume, mais ça ira pas très loin. Et finalement, dans la fin du chapitre avec Épaphrodite, on a le contraste entre l'aisance et l'épreuve. Et je dirais que c'est la différence entre manquer versus rencontrer Dieu, manquer le rendez-vous. Souvent, quand on est dans l'aisance, on est autosuffisant, on s'assit, puis tout est beau. Mais on manque le rendez-vous de Dieu. Donc, toutes sortes de contrastes avec toutes sortes de conséquences qui vont avec. Toutes ces observations révèlent le paradoxe de la vie chrétienne. Le paradoxe est inhérent à la vie chrétienne, c'est-à-dire que ça en fait partie même. On parle de vie chrétienne, il va y avoir du paradoxe. OK? Puis là, on va le voir à travers le message, mais on jouit de la vie de Christ en nous en acceptant notre mort. La mort est le chemin vers la vie. On accède à la vie en passant par la mort. Donc, ça, c'est vraiment, je dirais, au cœur du message. Puis aujourd'hui, on est vraiment avec les vérités de la sanctification. Ou est-ce que parfois, on a de la misère à comprendre? Puis là, on va regarder des choses qui souvent vont être une controverse, des points de divergence entre certains chrétiens. quand il y a la question de la sanctification. Mais par exemple, OK, ma position en Jésus-Christ versus ma pratique de ma foi. Position, pratique, ça souvent, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Ou ma relation avec Dieu versus mon service pour Dieu. Puis notre frère a prêché là-dessus, voilà, à peu près un mois, je dirais, à Josiah. Donc, ça, c'est en guise d'introduction. J'aimerais qu'on regarde deux contrastes qui touchent à notre position en Jésus-Christ. Deux contrastes. D'abord, notre position versus notre pratique. OK? Donc, quand on parle d'une position, là, c'est on est assis dans les lieux célestes, nous sommes en Jésus, nous étions morts, nous sommes maintenant vivants en lui, on est acceptés, tu sais, c'est Éphésiens 1, 2, 3, puis OK, notre position versus notre pratique, la marche, OK, mettez ces choses en pratique, c'est vraiment le premier point, le premier contraste, notre position versus notre pratique. Et là, pour avoir une juste compréhension biblique et christique, il faut considérer, et là je vais prendre un gros mot que peut-être vous le connaissez, mais il faut considérer ce point-là là, à la lumière de Jésus et de la kénose. Si je dis kénose, il y a des gens ici qui sont complètement perdus. C'est que Jésus, dans son incarnation, on le voit là, dans les versets 6 à 8, il s'est dépouillé lui-même. Le mot pour dépouiller, là, si on parlait grec, je dirais kénose. Okay? C'est dépouiller lui-même, c'est-à-dire que il n'a pas regardé le fait qu'il était dans la gloire, il n'a pas regardé ça comme une poix à arracher, puis il s'est humilié, OK? Donc, il a mis de côté des attributs divins, OK? Jésus n'a jamais arrêté d'être Dieu, mais dans son incarnation, il a mis de côté certains attributs pour devenir un homme, puis venir ici sur terre. Quand on parle de la kénose, c'est tout ça, OK? L'idée que Jésus est passé de la gloire à l'humiliation, de dépouillement, OK? Pourquoi c'est important qu'on considère ça ensemble? Parce que tout ça prend racine dans l'humilité. Le chapitre commence avec l'humilité, hein? Puis il parle d'humilité, puis il se sert de Christ comme l'exemple suprême d'humilité. Okay? Donc tout ça, ça forme un tout. Mais aussi, on voit le fruit de ça. Donc la racine, c'est l'humilité. Et le fruit, c'est la vie. Le fruit, c'est tout ce qui est bon, puis ce qui est beau, c'est l'œuvre de Dieu qui se passe. Okay? Donc, si dans nos vies, on veut porter du fruit, il faut s'enraciner dans l'humilité. Si on veut voir la gloire de Dieu, il faut accepter d'être enraciné dans l'humilité, ou je peux le dire autrement, l'humiliation. Pas voir les choses à notre façon, les choses que ça vire pas comme on voudrait. OK? Donc, ici on a ce contraste que je vais vous décrire dans un instant, mais avant je veux juste amener un point. Souvent, quand on parle de okay, notre position, ce qu'on est en Jésus-Christ versus notre pratique, souvent, ce qu'on entend comme objection, je dirais l'objection numéro un lorsqu'on parle de ce que nous sommes en Jésus-Christ, puis, OK, quand on parle de toute cette question de notre position, les gens vont dire, ben si tu prêches trop la position, si c'est ce que vraiment les gens croient, ça va les pousser à cesser tous efforts d'essayer de plaire à Dieu dans leur vie. Autrement dit, ils vont s'asseoir sur le bacon, puis ils vont rien faire. OK? C'est la traduction québécoise. Puis, derrière ça, il peut y avoir... On peut comprendre une certaine logique, parce que, n'est-ce pas que ça dit dans Romains 6, 1 et 2, que dirons-nous donc, demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous au péché? Donc, quelqu'un peut dire, ben, tu peux amener une bonne vérité, mais trop loin. Hein? Puis, c'est ça ici que les gens veulent dénoncer lorsqu'ils disent, ben, fais attention, quand tu parles de la position en Jésus-Christ, ça peut amener... trop loin. Dans le fond, on a peur de prêcher un paradoxe, de peur qu'on tombe dans un piège d'un extrême ou de l'autre. Mais la vérité là, de notre position en Jésus-Christ, là, quand on regarde ça, là, puis je vais vous donner un excellent exemple, mais quand on regarde l'enseignement biblique par rapport au fait de ce qu'on est en Jésus-Christ, qu'on est, oui, dans les lieux célestes, qu'on est parfaitement accepté, tout est réglé, on n'a rien à faire pour... essayer d'impressionner Dieu, on est déjà complet en Christ, on est dans le bien-aimé, OK? C'est ça l'idée de notre position en Christ. Ces vérités-là sont toujours données dans le but de provoquer en nous une appréciation de Dieu puis une motivation pour Dieu, OK? C'est pas pour nous tirer vers le bas, c'est pour nous pousser vers l'avant, OK? Et d'ailleurs, regardez le pattern. La semaine dernière, on était dans Éphésiens. Éphésiens 1, 2, 3. Ça nous parle justement de la grandeur de ce que Dieu a fait de nous autres, de notre position, chapitre 1 à 3 dans Éphésiens, c'est notre position en Jésus. Puis après ça, ça dit, au début du chapitre 4, « Je vous exhorte, moi le prisonnier, dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne. Ce grand salut, cette position extraordinaire que vous avez dans le Seigneur, bien maintenant, marchez à la lumière de ça. » OK? Et c'est ça la motivation biblique. Là, on parlait de ça, il y a un livre qui a été écrit là-dessus, « Assis, marcher, se tenir ». Je ne sais pas, il faudrait que je le relise. Là. On est parlé la semaine dernière, mais tu dis qu'il y a des affaires qui t'avaient chicoté, il faudrait que je le... Je pense que je vais le recommander. Plein de monde m'ont parlé de ce livre-là. Y a-t-il quelqu'un qui sait où ce livre-là, de Watchman Nee, « Marcher, assis, marcher, se tenir ».
Il y en a plusieurs
à la librairie chrétienne. Oui. Ben non, mais on avait un dont on avait un exemplaire. Puis là, je ne sais pas, il est où, on l'a passé. Puis... En tout cas. OK. On parle de notre position versus la pratique. Je vous donne juste quelques... Je vais vous expliquer le contraste, là. Notre position en Jésus-Christ, elle est parfaite. T'sais, devant Dieu, là, on est saint, irréprochable. OK, ça, c'est notre position. Maintenant, notre pratique, c'est la réponse à ce grand salut. OK? Par exemple, si on regarde dans 1 Corinthiens... Voyons, il est où mon... Ah, il est là. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Donc, c'est la réponse. Notre position, c'est la considération de ce que le Père a fait en Jésus-Christ. Et notre pratique, bien, c'est l'appréciation du Fils. De Christ qui vit en nous. OK? Notre position, c'est notre salut éternel, inchangeable, parfait. Notre marche, ben, elle est sujette aux aléas de la vie. Variable, fluctuante. Mais ça ne l'affecte pas. Tu sais, quand même, j'ai une mauvaise journée, là. Dieu ne m'aime pas moins cette journée-là. OK? Ça, c'est important, je pense. C'est pour ça que notre position, c'est important. Des fois, justement, notre marche, là, c'est pas tout le temps constant, n'est-ce pas? Mais ça change pas la disposition de Dieu envers nous autres. Notre position nous parle du fait qu'on est saint, on est mis à part, parfait devant Dieu. Et notre marche, ça nous parle qu'on marche dans la sainteté, on recherche ces choses, on recherche à marcher d'une manière digne de notre Seigneur. Pourquoi? Parce que on veut marcher à la lumière de ce qu'il a fait de nous autres. Notre position nous parle que nous sommes morts avec Christ, morts au péché, et notre marche nous montre que nous marchons en nouveauté de vie. On se voit comme morts au péché et comme vivants pour Dieu. Donc, vous voyez le contraste. Un qui est parfait, accompli, total, et l'autre qui est dans le quotidien, qui n'est pas parfait, mais qui est à la lumière du parfait. Et remarquez ici le modèle. J'ai pris le temps de vous expliquer ça parce qu'il y a un pattern. Okay, un modèle, un pattern. C'est quoi qu'on voit dans ce que je vous ai souligné par rapport au contraste entre notre position et notre marche? C'est que c'est toujours de la racine vers le fruit. Comme Jésus l'a bien illustré dans Jean 15 avec la vigne. Jésus, là, c'est lui, la racine nourricière, le tronc, puis nous, on est les branches. OK? C'est ça, notre position, c'est qu'on a été attaché. OK, on était étrangers avant, mais on a été greffés. On fait maintenant partie de la racine nourricière. Et notre marche, la pratique de la vie chrétienne, c'est le fruit que ça va donner. Et les deux sont organiquement reliés, sont inséparables, sont en symbiose vitale, tel que exprimé dans un autre passage de Jean. Dans Jean 17, Jésus a donné la parabole de la vigne dans Jean 15, mais il a prié pour nous dans Jean 17. Et regardez, écoutez bien ce qu'il dit. Ce n'est pas Jésus ici qui prie au Père. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, donc pas juste les prier, pas juste pour les apôtres, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ça, c'est nous autres. Okay? Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Voyez-vous la symbiose, l'unité parfaite? Pour que le monde croie que tu m'as envoyé, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Moi, quand je dis ça, des fois, c'est « wow ». Tu sais, on disait tantôt, là, on n'est pas dans quelque chose d'humain, là. C'est divin. Ça, c'est extraordinaire. Et c'est libérateur. Ces vérités-là, pourquoi sont si précieuses et si belles? Parce qu'elles nous libèrent du joug de la servitude. La Bible nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. On est libre de servir à la lumière de ce que Dieu a fait de nous autres. On n'a pas le fardeau d'essayer de performer pour impressionner Dieu. Dieu est déjà impressionné, là. Pourquoi? Parce que Christ en nous, c'est tout ce qui impressionne Dieu. Et nous, maintenant, on vit à la lumière de ça. Puis oui, on est motivé, puis oui, on donne de notre mieux. Ça ne tire pas vers le bas, c'est « wow, je suis libre ». D'aimer, je suis libre de donner tout pour toi, Seigneur. Et donc, c'est plus comme un fardeau de religion, là. Il faut que tu performes, sinon Dieu n'est pas content. Puis là, tu as une espèce d'épée de Damoclès qui est toujours au-dessus de ta tête. Non, c'est pas du tout ça. Quand on comprend notre position, notre pratique est totalement différente. En fait, ça nous donne des ailes dans notre pratique. Et c'est pour ça que les deux, lorsqu'ils sont bien compris, c'est beau, c'est libérateur. Et je reviens à toute la question de la kénose, parce que je n'ai parlé tantôt, on l'a ici dans les versets 6 à 8. Mais Jésus, quand il était sur terre, comment il a exprimé cette kénose, le fait qu'il s'est dépouillé de certains attributs? Bien, Jésus, là, quand il était sur terre, puis ça, il y a des gens ici, je ne sais pas si vous avez pris le temps de réfléchir là-dessus. Jésus, là, OK, c'est Dieu fait homme. 100% Dieu, 100% homme. Mais sur terre, il était limité. Il avait faim. Puis, il y a des choses qu'il ne pouvait pas faire. Les gens disent « Hey, Jésus pouvait faire ça. » Non, il a décidé qu'il ne pouvait pas. OK? Puis, je vous lis ici, là, ce que lui-même a dit. « Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. » C'est à ce point-là qu'il était dépendant. OK? Il ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Ce que je veux mettre ici en lumière, c'est que c'est une relation de dépendance totale, mais qui vient de l'amour. Qui vient ici, ça dit que le Père aime le Fils. C'était pas un fardeau, c'était pas quelque chose qui était imposé contre sa volonté, c'était sa joie, c'était... En fait, c'est évident, quand on a une relation comme ça, proche, filiale et d'amour, c'est un joyeux service. C'est quoi, donc? Il y a un cantique là-dessus, c'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ. Oui, c'est moi. Puis c'était ça pour Jésus. Il parle souvent de sa joie qu'il avait, sa joie qui était parfaite. Même si c'était un homme de douleur accoutumé à la souffrance, il venait accomplir la mission qui lui était donnée, et c'était sa joie, même si ça allait jusqu'à la mort horrible de la croix. Encore peut-être un autre paradoxe là aussi, ça dépasse l'entendement. Mais ça m'amène au deuxième point, la deuxième considération, le deuxième contraste par rapport à notre position en Jésus-Christ. Non seulement il y a un contraste entre justement ce qu'on est en Jésus-Christ puis la pratique, mais aussi notre relation avec Dieu versus notre service pour Dieu. Là, vous avez déjà entendu celle-là. Ah, l'important, c'est ma relation avec Dieu, puis dis-moi pas quoi faire. Ça, c'est pas une bonne façon de penser. Ou, ben là, je vais faire ça, puis là, Dieu va être content. Si je le sens, ben là, je vais avoir une relation avec lui. Les deux, c'est une mauvaise compréhension de ce qu'on va considérer maintenant. Là, juste pour être clair, puis direct en partant, là, le pattern de notre relation, là, en contraste avec notre service pour Dieu, c'est pas compliqué. Nous avons une relation avec Dieu qui produit un service pour Dieu. Ou pour le dire autrement, notre service est enraciné dans notre relation avec Dieu. Ou pour le dire encore autrement, notre relation propulse notre service pour le Seigneur. J'ai-tu été clair? Vous comprenez? OK, bon. Tout ça découle des vérités de notre union avec Jésus-Christ, qui est dans et par l'humilité. Okay? Si on est uni à Christ, on est un enfant de Dieu, c'est inséparable, c'est fait, mais pour en jouir, pour le vivre, c'est dans l'humilité, au moyen de la foi. Et on le voit avec les paroles qui sont données dans les premiers versets, mais maintenant j'aimerais qu'on se tourne vers la deuxième partie du chapitre, où est-ce qu'on voit que dans une église locale, dans les relations humaines, cette position avec, que les croyants avaient s'est déclinée en trois facettes. Okay? Dans les versets 12, là je vous les donne, puis on va les regarder un après l'autre, là, mais dans les versets 12 à 18, on voit que la relation avec Dieu est exprimée dans le service envers les perdus. OK? Ceux qui connaissent Dieu servent les perdus. Dans les versets 19 à 24, on voit que la relation avec Dieu est exprimée dans le service envers les saints. OK? On voit ça avec Timothée. Puis, dans les versets 25 à 30, avec Épaphrodite, on voit que la relation avec Dieu est exprimée dans le service au combat. C'est Paul qui l'identifie, Épaphrodite, comme son compagnon de combat. Là, on va regarder ça ensemble. D'abord, les versets 12 à 18. On va les lire, puis ensuite, je vais vous donner une couple de commentaires là-dessus. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses, sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue. » C'est là les perdus, là. « Parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Et même si je sens de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je m'en réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. » Donc, on voit ici comment la relation des chrétiens est exprimée, la relation qu'ils avaient avec Dieu est exprimée dans leur service envers les perdus. À cause qu'ils étaient sauvés, ils étaient maintenant la lumière dans le monde, ils étaient ceux qui représentaient Dieu dans une génération perverse et corrompue. Donc, une relation vivante avec Dieu, lorsqu'elle est vécue à la lumière de la croix, à la lumière de notre position en Jésus, elle nous façonne, elle nous dispose à souffrir pour l'Évangile. Souffrir pour l'Évangile dans la cause du salut, puis je dirais encore plus de la restauration des perdus. Ça dit ici une génération perverse et corrompue, on pourrait dire aussi brisée, déflaboxée, toute de travers. Et c'est dans le monde, c'est le monde de ténèbres dans lequel nous sommes, et c'est là que Dieu nous a placés. Et là-dessus, je pense qu'on a une belle illustration live avec le frère que le Seigneur nous a... nous a présenté, a mis sur notre chemin, notre frère Alain, qui était à Coudjurapik, Great Will River, la petite grande rivière, puis il n'y a pas de baleine en français, c'est bizarre, la petite grande rivière, c'est comme branchois, elle est petite ou elle est grande? C'est le même qu'on dit en français, ça a l'air. Notre frère Alain, là, il est un bon exemple de ça, OK? C'est Dieu qui l'a sauvé, qui l'a restauré, et qui l'a placé où est-ce qu'il est, dans un endroit où est-ce qu'il souffre beaucoup par amour pour les perdus. Je ne sais pas si vous savez, là, mais c'est un endroit très difficile. Et il y a des gens, des perdus, qui sont durs à aimer. Pourquoi? Parce que c'est des gens brisés puis souvent hostiles. Mais l'amour de Dieu, c'est évident. Tu l'avais rencontré Alain, là, l'amour de Christ est répandu dans son cœur. Il aime ces gens-là. Qui, disons-le, ne sont pas aimables. Puis il y a des histoires comme ça, Peyton, là, c'est quoi, c'est John Peyton, qui est allé vers les cannibales. Je veux dire, il les aimait, puis Dieu a fait un homme. Mais ouais, il l'aimait au goût. Mais j'ai pas besoin de dire ou de rappeler à mon frère qu'il a besoin d'être un flambeau, non. C'est l'œuvre de Dieu, à cause que sa relation avec Dieu, parce qu'il connaît Dieu, le fruit, c'est que sa vie est un service pour les perdus. OK? C'est de ça ici dont on parle. Donc, voyez-vous comment l'un est intimement relié à l'autre? c'est vraiment un qui est la racine et l'autre en est le fruit. Donc ensuite, on a, puis là on va lire Timothée avec les versets 19 à 24. « J'espère dans le Seigneur Jésus de vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne, car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc de vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. » Qu'est-ce qu'on voit avec Timothée? On voit quelqu'un qui a une relation vivante avec Dieu, qui vit à la lumière de la croix et de sa position en Christ. Et ça, ça le façonne, ça le dispose à souffrir avec ceux qui ont tout donné pour l'Évangile. Timothée, c'était pas facile de suivre Paul, là. Pas parce que Paul était grincheux, parce que Paul, à cause de sa foi, à cause qu'il proclamait l'Évangile, puis à cause qu'il, c'est ça, Dieu l'utilisait pour bâtir son royaume, il y avait beaucoup de souffrance avec tout ça. Puis, c'est drôle des fois comment la souffrance n'était pas nécessairement de la part de ceux qui sont perdus puis hostiles à l'Évangile, comme on l'a vu dans les versets précédents. Mais là, c'était le peuple de Dieu qui était indifférent. Timothée qui prenait à cœur, lui, la situation de Paul, puis qui voulait que, les Philippiens, eux autres aussi, l'ont pris à cœur, mais la majorité des personnes, ça leur passait par-dessus la tête. Ça dit que chacun cherchait leurs propres intérêts. Et je crois que dans le contexte, ça nous parle ici des croyants. Et donc, pour donner un exemple, tantôt j'ai parlé de notre frère Alain, puis il est perdu, mais je pense qu'on a vécu, et on l'a vécu en tant qu'individu, mais aussi on a vécu, vous savez qu'en tant qu'Église, on a eu une expérience inouïe. Dieu nous a bénis, d'une façon vraiment spéciale, tout le temps du COVID, là. Je pense que Dieu nous a fait vivre des choses extraordinaires, mais aussi en solidarité avec d'autres enfants de Dieu. Tu sais, les coachs, là, pas eux autres ici, là. Ben oui, eux autres ici aussi, on a vécu avec eux autres, mais d'Alberta, là, James, OK? Puis l'autre, là, avec la grosse barbe, puis MacArthur, puis Théo Vox, puis excusez, là, la grosse barbe, je veux pas l'insulter. Ben, il y a une grosse barbe, là. C'est quoi son nom? T'es pas Thyssen? Friesen? Thyssen? En tout cas, vous savez c'est qui, là, le gars avec la grosse barbe, là? Ben, il a l'air bien fin, là. Je ne sais pas comment, il ne me rappelle plus de son nom. Là. Je ne l'ai pas écrit sur mon papier ici. Le Seigneur a permis d'ouvrir nos horizons, de voir, on a des frères et sœurs qui sont disposés à souffrir pour le Seigneur puis qui veulent payer le prix pour l'édification des saints, parce que ça a été ça. Je voyais ça dernièrement. OK. Les SQDC, les SAQ, les Walmart étaient tout ouverts, mais toutes les églises, il fallait les fermer. Ça, c'est pas les priorités bibliques. Là, pour, je ne sais pas si vous avez regardé dans la Bible. Là. Mais SQDC versus église, là, je ne sais pas si on demande à Dieu c'est quoi qu'il pense. Là. Mais je pense que la priorité est claire. Ah non, mais c'est dangereux, c'est dangereux. Ben si c'est dangereux, c'est dangereux une place, c'est dangereux à l'autre. Là. Convenez-vous que, évidemment, on sait, Satan, c'est le prince de ce monde, puis il y a tout ça, mais tout ce que je veux amener avec ça, c'est que Dieu nous a permis d'expérimenter, de vivre des vérités comme ici on vient de voir dans les versets. Ou est-ce que, je vais vous le dire, moi je crois qu'en général, le corps de Jésus-Christ, l'Église du Dieu vivant, en général, Dieu a révélé que beaucoup cherchaient leur propre intérêt. Peu avaient à cœur. Et tu sais, ça dit, tous en effet cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Bon, puis là, vous allez dire, mais je condamne, tu sais. Je vois juste que la solidarité, l'entraide chrétienne était rarissime. Ce qu'on voyait, c'était plutôt de l'attaque, de la division, de la chair. Puis nous, on était comme une petite île, puis on a comme eu la joie de waouh! On a vu Dieu là-dedans. Puis on a vu qu'il y en avait d'autres là-dedans. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Ça a été extraordinaire. Fait que je veux juste vous dire, c'est ça que je veux amener. C'est que, à la lumière de... Puis c'est, n'est-ce pas comme un drôle de hasard qu'en plus Dieu nous a montré des vérités sur ce qu'on est en Jésus, puis tout ça, puis ça a tout fait partie d'un package de Dieu. C'est pas un hasard. Ça va tout ensemble. OK? Quand on est sécure dans ce qu'on est dans le Seigneur, c'est le genre de fruit que ça porte, non seulement envers les perdus, mais aussi envers les saints. Ce qui est ressorti de tout ça, on a découvert Dieu. On a découvert Dieu ensemble, puis on s'en est émerveillé. Puis on a vu qu'on avait des frères et sœurs qui n'ont peut-être pas le même nom en avant de Église, la même dénomination, mais qu'on a vu que c'est des frères et sœurs bien-aimés qui sont prêts à payer le prix pour leur foi, plus précieuse que l'or. Amen. Ça m'amène au dernier contraste qu'on voit dans le chapitre 2, non seulement par rapport aux perdus, par rapport aux sauvés, mais on voit dans les versets 25, bon, on va les lire avant, « J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins, car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'aie pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le voir, et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur, avec une joie entière, et honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. » Donc, non seulement la relation avec Dieu est exprimée dans le service pour les perdus, dans le service pour les saints, mais quand on est en relation avec Dieu, ça va s'exprimer dans le service au combat. Ici, c'était évident qu'il était dans une guerre spirituelle. Et on va parler là-dessus après-midi. Le message d'après-midi, il y a des choses super importantes qu'on va voir ensemble. Et une des choses qu'on voit dans l'histoire de l'Église, c'est lorsque l'Église est attaquée de front, lorsque l'Église passe par l'épreuve, par la persécution, c'est là qu'elle porte le plus de fruits. Et ici, on voit ça, c'était dans le combat, mais les gens, justement, qui de leur relation, puis frère Couture, Luc avait amené un message là-dessus au rassemblement, au ralliement. Tu fais comment? En tout cas, c'est genre fin COVID, là. Je sais pas si vous vous rappelez, puis il avait dit justement, tu sais, pouf, ça arrive pas que de même que tu vas être prêt pour le combat du jour au lendemain. Ça va s'enraciner dans ta relation avec Dieu, puis là, ça va, de ça va ressortir le fait d'être prêt pour le combat. Donc, notre relation vivante avec Dieu, lorsqu'elle est vécue à la lumière de la croix de notre position en Jésus, va nous façonner, nous disposer à souffrir dans le combat de l'Évangile avec ceux qui s'y donnent de façon sacrificielle et christique. Et c'est ça l'idée avec Épaphras. Il est un compagnon de combat, les deux étaient animés du même esprit. Les deux ne comptaient pas leur vie comme précieuse. Ils voulaient achever la course. Et ils ne voyaient pas leur vie comme une proie à arracher, comme ça dit au verset 6. Mais ils acceptaient, par la foi, ils acceptaient en faisant confiance à Dieu, de souffrir pour le bien puis le péché des autres. Parce qu'ils étaient animés par les sentiments de Christ, par l'attitude de Christ. Et c'est là-dessus que je termine mon message aujourd'hui sur les contrastes, les paradoxes. Voulez-vous que je vous dise comment on règle ça, un paradoxe dans la vie chrétienne? Voulez-vous le secret du succès? J'ai une recette pour terminer. Voici la recette secrète. Ah, mais si vous êtes... Ah, puis c'est quelqu'un qui me l'a... J'ai entendu. C'est-tu ça, René? Oui, c'est par la foi. Les paradoxes, là, si on essaie des réseaux humainement, là, ça ne va pas marcher. On ne s'appuie pas sur notre propre sagesse. Mais on reconnaît Dieu dans toutes nos voies, puis on accepte, même si on ne comprend pas tout. C'est ça, la foi. C'est d'accepter, justement, qu'on ne comprend pas tout, mais si Dieu le dit, c'est bien correct de même. Moi, je ne peux pas vous dire le nombre de fois dans ma vie chrétienne où est-ce que j'ai eu une joie, une paix qui dépasse toute compréhension lorsque, face à des choses incompréhensibles de même qui tiraient d'un bord, qui tiraient de l'autre, que j'ai simplement dit, mais Dieu, je vais te faire confiance. Je l'accepte par la foi. Ben, c'est là que ça s'est résolu. Je ne sais pas si j'ai eu la réponse à ci et à ça, mais c'est parce que Dieu est devenu ma réponse. Donc, la réponse, ce n'est pas dans ce qui nous... du fait que je comprends pas si, puis pourquoi ça arrive. Non, c'est le fait que, par la foi, c'est là qu'on rencontre Dieu. N'est-ce pas ce qu'on a vu? Il y a bien des affaires qu'on pourrait pas comprendre dans tout ce qui est arrivé. Mais quand on rencontre Dieu, c'est suffisant. Et c'est ça, vraiment ici, le but du message, c'est que il y a des contrastes dans la vie chrétienne, il y a des choses, on parle de paradoxes. Mais c'est quoi le grand échange de la vie chrétienne? C'est d'accepter que Christ est mort pour nous autres. C'est d'accepter que il a donné sa vie afin que nous puissions vivre, qu'il est mort afin qu'on n'ait pas à faire face à la mort. Et ça, quand même qu'on ne peut pas tout expliquer, quand on l'accepte, on passe de la mort à la vie. Donc c'est simplement à ceci que je vous encourage, de vous humilier devant ce que Dieu vous montre ce matin, de vous repentir de l'incrédulité, de la résistance, de l'insistance qui peut être dans votre cœur, puis de vous confier dans la provision de Dieu, la provision parfaite. Il n'y a pas d'autre moyen. Dieu a donné Jésus-Christ, puis il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre option à prendre pour avoir la vie. Alors peut-être que tu es ici ce matin, tu es abattu, tu es sous le poids de la souffrance, le poids de la misère, de ne pas trouver un sens à ta vie. Lève les yeux, regarde à la croix, regarde à Jésus qui est venu pour que tu sois sauvé, qui est mort afin que tu aies la vie. Et ça, mes amis, ça va se passer le jour où est-ce que vous confiez, vous recevez par la foi la provision de Dieu. Christ a tout accompli, il vous reste simplement à le recevoir. Puis pour les enfants de Dieu, Dieu a tout pourvu pour qu'on ait la vie en abondance. Pas pour qu'on vive dans le désert, puis qu'on subsiste, puis qu'on soit comme dans Romains 7. Mais Dieu a tout donné pour qu'on vive dans la terre promise de ses promesses, de Romains 8, de tout ce qui contribue à la vie puis à la piété. Donc pourquoi tarder? Pourquoi remettre à plus tard alors que Dieu nous a tout déjà donné pleinement en lui? Je vous invite à vous confier en lui, que ce soit pour le salut de votre âme ou pour votre marche avec le Seigneur, la joie dans le milieu des circonstances. Je vous encourage à venir à lui tel que vous êtes et à venir à lui seul. Seigneur, merci de ce que tu nous as donné, Jésus ton Fils. Merci de ce que tu nous as donné, la perfection, tu nous as donné tout pleinement en lui. On n'a pas une deuxième étape, une autre place où aller chercher. On a tout en lui. Et Seigneur, je prie que ce matin, Jésus soit exalté comme étant loin de l'Éternel, celui qui a été désigné pour sauver le seul. Il n'y a pas de nom qui est au-dessus de son nom, il n'y a pas de salut en aucun autre. Et oui, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Je prie que ceux qui n'ont pas encore fléchi le genou devant Christ pour le salut de leur âme, qu'ils le fassent aujourd'hui même. Et pour nous, tes enfants, oh, on veut se réjouir que nous avons tout pleinement en toi. Et Seigneur, on veut s'approprier cette plénitude. On veut vivre à la lumière de ce que tu as fait de nous. Par la foi, Seigneur, on veut marcher dans cette vie nouvelle que tu nous as donnée. Merci, Seigneur, pour ce temps ce matin. Merci que c'est ta parole qu'on a considérée, c'est pas ce que les hommes ont à dire. Merci que on ne peut pas mettre ça dans une petite boîte puis tout expliquer parce que tu es grand, tu es infini. L'homme ne peut pas t'expliquer, mais on peut te faire confiance. Tu es bon, tu es vrai. Et merci Seigneur que tu es personnel. Tu n'es pas un Dieu théologique au loin qu'on peut juste comprendre si on a fait un doctorat. Tu es près de tous ceux qui t'invoquent. Toi-même, quand tu étais sur terre, tu as dit que les petits-enfants peuvent venir à toi. Oh Seigneur, fais cette œuvre de grâce, continue-la Seigneur. Et merci, merci qu'on puisse se reposer en toi, dans ta grâce, dans tes soins, dans ta bonté. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.